Europe 1.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient sur ce qui s'est passé à Bordeaux hier soir. La procureure de Bordeaux a fait un point complet sur le déroulé des faits, la façon dont cet homme habillé d'un camis, donc la tenue islamiste, avec un keffieh sur le visage dont on ne voyait que les yeux et qui avait un couteau à la main, qui s'en est pris à deux reprises à des gens qui buvaient de l'alcool. Comment est-ce qu'il a procédé et pourquoi est-ce que la qualification de terroriste n'a pas été retenue. On écoute la procureure de Bordeaux.
Aucun élément ne milite en faveur d'une attaque à connotation terroriste. Toutefois, deux nouveaux éléments méritent d'être évoqués ce soir. Le premier, c'est un nouveau témoignage recueilli dans l'après-midi qui fait état d'une première altercation hier soir, juste avant les faits, suivie de violences entre l'assaillant et deux autres individus pour un motif a priori similaire. Ainsi, l'auteur aurait pris à partie deux individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude avant que l'agresseur n'exhibe un couteau en leur demandant de venir se battre. Il serait finalement parti et aurait poursuivi son chemin en direction du miroir d'eau. Grâce à la base de données Eurodac, qui contient, vous le savez, les empreintes digitales des demandeurs d'asile enregistrés dans les États membres de l'UE et les pays associés, l'auteur est à ce jour en cours d'identification. Il serait d'origine afghane et âgé de 25 ans.
Donc on a bien compris, pour l'instant, pas de qualification terroriste retenue. Et on a en temps réel l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, parce que l'agence France Presse, qui est un peu le canal officiel pour toute la presse française, dit « Ah, le parquet confirme une altercation liée à l'alcool ». Surtout, ne parlez pas d'islamisme, ne pas voir, ne pas entendre, ne pas dire.
C'est le ministère de la vérité de Jean Orwell. Il faut dire ce qui est, c'est même pas... Soit ce journaliste est complètement idiot, il a rien compris... Soit il est manipulateur, et je pencherai pour la deuxième option. Il faut bien savoir que ça, c'est une dépêche qui va être...
Tous les journalistes vont l'avoir sous les yeux. Partout dans toute la presse quotidienne régionale.
Mais beaucoup beaucoup de travail.
J'ai le Monde, j'ai un 16e de page. Non seulement c'est repris comme ça, lié à la consommation d'alcool, mais la piste terroriste semble désormais totalement écartée.
Oui, c'était avant la conférence de
la avec ce titre-là, quelqu'un qui travaille dans l'urgence, il a l'impression que ce sont deux alcooliques sur la voie publique qui se sont disputés et que ça a mal tourné. Donc là, il y a vraiment un problème avec l'idéologie, je suis désolé de le dire, à l'AFP et sur l'éthique. Et c'est problématique parce que souvent, ils donnent des leçons d'éthique aux autres.
Oui, à la terre entière et à toute la profession. Mais c'est important quand même ce qu'a dit la procureure. J'aimerais revenir là-dessus. Bon, voilà, je voulais quand même signaler le fait que l'AFP était tellement soulagée que ce soit une altercation liée à l'alcool.
Mais tout de même. Gens qui se sont battus,
je comprends pas ce que dit la procureure, ce qu'elle dit.
Elle dit deux choses qui sont paradoxales.
Voilà, elle dit à la fois, c'est mais attention, on a appris que quelques moments avant, ils avaient agressé quelqu'un qui buvait de l'alcool. Donc, ce sont les deux mêmes scènes. Il s'en est pris à des gens qui buvaient de l'alcool.
Est-ce qu'on peut qualifier ça de terrorisme, c'est ça?
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si on considère qu'effectivement, des mots d'ordre ont été lancés en disant « tuer les mécréants », il aurait, ça a été confirmé, traité les deux personnes de mécréants. Donc, quand des réseaux terroristes disent « tuer les mécréants » et que quelqu'un passe à l'acte, là, la justice est en train de réfléchir si effectivement c'était vraiment connecté. Bien entendu,
il y a quand même un réseau d'indices.
Pas tous en même temps. Céline Pina et ensuite Denis Jacques.
Dans un certain nombre de pays où l'islam règne en maître, y compris par exemple en Algérie, si on vous prend à boire ou à manger pendant le ramadan, vous pouvez être condamné. Inutile de vous dire que dans des pays où l'islam est beaucoup plus rigoriste, vous pouvez même être condamné à mort. Donc, on voit bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que cet Afghan, qui culturellement est à des années-lumière de ce qu'on vit, de nos libertés...
C'est un demandeur d'asile, hein,
voilà. Lui, il est choqué et il fait respecter la loi de la charia, qui est la seule qu'il connaît. Et en plus, quand il arrive en France...
Les talibans sont au pouvoir en Afghanistan.
Voilà, et on lui explique que quelque part, il faut aussi l'installer en France. Il fait le boulot.
Vous avez raison. Denis Jacob, policier.
Écoutez, moi, je ne vais pas qualifier les faits à la place de la procureure, mais mes collègues, pour avoir une nouvelle fois, avoir eu hier soir au téléphone, n'en pensent pas moins.
C'est-à-dire, ils disent...
Sur la qualification des faits.
Oui, bon, pour eux, c'est du terrorisme.
Pour eux, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, mais ça ne nous appartient pas de les qualifier. C'est à la justice de le faire, mais ils n'en pensent pas moins.
Comment expliquer une telle cécité?
Moi, je pense qu'il y a une frilosité certaine à évoquer la piste terroriste. Vous dites l'AFP ne l'évoque pas. Ben, la justice, c'est pareil. Finalement, c'est un climat ambiant où on évite de dire les choses pour ne pas faire peur à la population. Mais quand il y a un faisceau d'indices qui, à mon sens, mais je dis bien à mon sens, est quand même assez concordant, on pourrait évoquer cette piste, analyser les choses et ensuite l'écarter. Là, et même dans Le Monde, c'est repris, et moi ça me choque, est totalement écarté. Voilà ce qui est repris. Donc finalement, le but, c'est que le grand public retienne, c'était un différend lié à l'alcool, circuler, il n'y a rien à voir.
Alors, il y a évidemment ce qui s'est passé avec cet homme, mais il y a aussi cette insécurité qui sévit à Bordeaux, comme à Lyon, mais comme dans les villes plus petites. Et j'aimerais qu'on écoute quelques habitants de Bordeaux qui disent ce qu'ils vivent tous les jours. C'est-à-dire, voilà, on parlera après du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, dont je rappelais qu'il ne voulait pas que sa police municipale soit armée avec des armes létales. C'est-à-dire qu'ils ont des tasers, en gros, ils ont quoi d'autre ? Des bombes lacrymogènes. Quand vous avez un terroriste avec un long couteau, bon, merci à la police nationale d'être intervenue. On écoute quelques habitants de Bordeaux sur ce qu'ils vivent sur la sécurité au quotidien.
J'étais un peu surprise sur le début parce qu'on sait qu'il y a, bon, il y a un peu d'insécurité, mais Bordeaux est quand même relativement tranquille de manière générale. On en entend très peu parler, mais bon, après c'est dramatique, c'est tragique, mais on ne sait pas plus trop de circonstances, comment ça s'est passé. En tout cas, ils n'ont pas dit pour le moment, donc on espère que ça ne va pas trop se reproduire parce que bon, on aime bien quand même sortir et profiter, et puis c'est une ville assez agréable. Donc.
Franchement, je m'y attends tout le temps, que ce soit ici ou ailleurs. C'est partout. Honnêtement, c'est partout. Donc, je m'y attends. Quand mon ami m'a dit attention, miroir d'eau, coup de. Et j'ai dit, pas surprise.
Pas surpris, les habitants, Eric Nolot. Voilà. Oui, c'est pas un sentiment. Hein.
Non, mais c'est la différence entre quelqu'un qui décrit objectivement la réalité et quelqu'un comme le maire de Bordeaux qui la décrit à travers le prisme de l'idéologie. Mais malheureusement, voilà, il y a un déni de réalité et il y a des incidents de plus en plus rapprochés. Là, on vit quand même une série noire quand même assez incroyable.
Je fais la liste, c'est terrible.
Et il s'obstine quand même à dire non, mais la réalité ne compte pas. En fait, la réalité, c'est ce que je vous dis, c'est pas ce que vous voyez. Mais les Français sont pas dupes. Alors si c'est pour éviter, comme le disait Céline, le vote pour le Rassemblement National sera l'effet exactement inverse parce que les gens n'aiment pas être pris pour des idiots.
Alors j'aimerais juste qu'on écoute le maire de Bordeaux parce qu'évidemment il se défend de vouloir désarmer sa police municipale, mais bon, le fait est qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choses à leur disposition que des tasers et des bombes lacrymogènes. Écoutez Pierre Urmic.
La police municipale, elle est armée à Bordeaux comme ailleurs. Elle n'a pas d'armes létales, mais elle a des armes qui lui permettent de neutraliser des assaillants. Donc je ne laisserai pas dire que notre police municipale est désarmée, elle l'est. Et voilà, ce sont des armes non létales, mais je vous promets qu'ils sont déjà dissuasives et qui permettent, et c'est quand même aussi le but, qui permettent de neutraliser, quand c'est nécessaire, des assaillants.
Voilà pour Pierre Urmic. Ça vous fait réagir, Denis Jacob, vous êtes policier.
Oui, ça me fait réagir parce que, quelque part, dans la façon d'exprimer les choses, le maire de Bordeaux laisse entendre qu'en gros, sa police, elle, ne tuerait pas et que la police nationale tuerait. Et pour reprendre ce que vous disiez, Laurence, par rapport à l'AFP, moi, je réaffirme les propos que j'ai tenus sur votre plateau, confirmé par la procureure, que les collègues m'ont rapporté dès hier soir, il ne s'agit pas d'une altercation, d'une rixe entre individus, mais bien d'une personne déterminée à tuer deux autres personnes au prétexte que, d'origine musulmane, elle ne respectait pas la fin du ramadan parce qu'elle buvait de l'alcool.
Moi, j'étais maire de Marseille, et un jour, la police municipale est venue avec un mannequin. Il l'avait habillé avec le gilet pare-balles qu'on leur avait mis à disposition. Il s'était amusé à tirer avec une arme longue dans un stand de tir pour montrer ce que ça faisait. Et vous voyez, monsieur le maire, vous nous envoyez en première ligne avec un gilet pare-balles qui ne nous protège pas, sans armes, contre des gens qui ont les armes longues. Bien entendu qu'on les a armés, on a changé le gilet pare-balles, on les a armés, parce que sinon c'est même, j'allais dire, un peu criminel, de les laisser dans la rue. Et qu'est-ce que vous voulez qu'un policier municipal fasse contre quelqu'un qui a une arme à feu avec une bombe lacrymogène? Enfin, que le maire puisse le dire, C'est pas de quoi il parle, quoi. C'est inimaginable.
Mais en sous-texte, c'est aussi. Mais la police nationale, elle agit autrement, c'est ça, Denis Jacob qui dit, les lignes.
Complètement. Alors qu'aujourd'hui, la police municipale, c'est la troisième force de sécurité intérieure en France et qu'elle est confrontée au même risque, à la même dangerosité que les policiers nationaux. Et qu'aujourd'hui, le débat sur l'armement ou pas de la police municipale ne devrait plus avoir lieu. Ils doivent pouvoir assurer leur protection et celle de nos concitoyens. Et je pense que le ministère de l'Intérieur doit se pencher. Il va y avoir un Beauvau sur la police municipale très prochainement. Il va falloir se pencher très sérieusement sur cette question d'armer la police
municipale. Parce que vous êtes un policier municipal avec un petit taser face à un homme qui arrive à fond sur vous avec un couteau de chasse. Pour sa propre vie, le policier municipal, alors, je ne sais pas ce qu'il fait.
Excusez-moi de l'expression, c'est au petit bonheur la chance.
Oui. Mais il risque sa vie.
Soit c'est efficace, parce que la morphologie de l'individu fait qu'un coup de taser va le sécher, comme on dit chez nous, sur place. Soit c'est quelqu'un qui est costaud, qui est résistant, et qu'un simple taser ne l'empêchera pas d'aller donner un coup de couteau au policier.
Moi, j'inviterais un peu plus de prudence sur ces questions-là. Tout simplement parce que quand l'adjoint à la sécurité dit « on a aussi peur que l'État, à Bordeaux, la fin, se désengage d'un certain nombre de ses missions et finalement laisse en partie les municipalités gérer de plus en plus les questions de sécurité », ce n'est pas forcément une bonne chose. Le régalien, entre trop de mains, ce n'est plus du régalien. Ça peut devenir du milicien si les choses tournent mal. Donc la première chose, c'est que...
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, là.
La réponse
de Denis Jacob, et après vous faites le deuxième point.
On l'a déjà vu. Je vous rappelle qu'on a déshabillé les hôpitaux, des fois, sous prétexte de créer des services privés, etc. Alors, jusqu'à présent, ça a toujours très mal tourné, et je vous invite...
Juste la réponse de Denis Jacob.
Je tiens quand même à rassurer Céline sur ce sujet-là. On a des polices municipales aujourd'hui qui sont armées.
Bien sûr.
La police municipale de Nice, c'est celle dont on parle très souvent.
Rappelez-vous la cathédrale de Nice.
Jusqu'à preuve du contraire, la police municipale aujourd'hui ne s'est pas appropriée les missions régaliennes de la police nationale. Donc bien sûr qu'il faut être prudent, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être.
Ce n'est pas la police municipale qui se l'approprierait, c'est l'État lui-même
qui se désengagerait
de choses extrêmement lourdes.
On est déjà dans un continuum de la sécurité entre les différentes forces. Donc de toute façon, c'est déjà là.
En fait, ce que fait l'État, elle récupère les polices municipales pour augmenter les forces de l'ordre sur le territoire.
Est-ce qu'à un moment donné, dans ces cas-là, il vaut mieux pas avoir deux donneurs d'ordre, et il faut se poser la question de quel est le rôle du maire. Et sincèrement, ça peut être un problème.
Il y a beaucoup de personnes qui ont des couteaux sur elles. Je pense qu'il faudrait aussi voir comment on peut contrôler ça, quelle peine on peut mettre, parce que ces personnes-là, on peut les mettre en garde à vue.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'est un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Ça, c'est vraiment la théorie. La pratique, c'est qu'on va éventuellement, on peut le mettre en garde à vue, on lui prend son couteau, qu'est-ce qu'il va faire ? Ressortir, en racheter un. Donc il faudrait aussi peut-être s'interroger sur quel cadre peut-on mettre. Ce n'est absolument pas normal qu'il y ait des gens qui soient armés à l'extérieur. J'ai écouté le témoignage d'un directeur de boîte de nuit qui disait quand on fouille, il y a plein de personnes qui ont des couteaux. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez dans la rue, autour de vous, des personnes, voire pire, qui ont des couteaux. C'est-à-dire avoir un couteau, là on le banalise, on semble dire, mais la question c'est que fait-on ? Que peut faire la police ? Est-ce qu'il faut, c'est pas forcément souhaitable en termes d'atteinte de vie privée, fouiller les sacs ? Que faut-il faire ? Ça me semble insoluble de fouiller tout le monde et c'est même pas souhaitable.
Je comprends même pas le débat parce que la situation a à ce point changé, la dangerosité a changé de nature et a changé d'intensité. Donc il faut réagir à notre tour en prenant des mesures. Il me semble qu'armer la police municipale...
Il faut arrêter d'attendre qu'il y ait des drames pour toujours agir.
Non, mais on a affaire à des individus de plus en plus nombreux. Donc il faut opposer une réponse différente. Il me semble qu'armer la police municipale, ça relève du bon sens.
Et une réponse ferme de la justice aussi.
Un dernier mot, Denis Jacob. 120 attaques au couteau par jour dans notre pays. Vous confirmez ce chiffre ?
Oui, je confirme qu'il y a ce nombre d'agressions exponentielles et que malheureusement, sur des personnes détenteurs d'armes blanches, comme on dit dans le jargon policier ou juridique, je ne vois pas ce qu'on peut faire, nous. Franchement, comment on va aller contrôler les personnes pour savoir si elles sont armées d'une arme blanche, fouille de sac.
C'est incontrôlable aussi.
Fouille de sac, oui, mais enfin, les hommes ne sont pas porteurs de sac en général. Là, en l'occurrence, il n'avait pas de sac, donc il la portait sur lui. Ça se dissimule très facilement. Ouais. très facilement. Il y en a beaucoup qui sont rétractables en plus. Mmh. Même des gros couteaux de chasse sont rétractables en deux, sont repliables. Mmh. Donc honnêtement, et on ne va pas encore légiférer pour interdire les couteaux.
Mais c'est déjà interdit. On a déjà
interdit dans la vente. Je parle de la vente.
On est à 3 mois des Jeux Olympiques.
Vous allez dans une boucherie, vous l'avez.
Alors François Péconi qui nous refait peur sur les Jeux Olympiques. On est à 106 jours, je crois, des
Jeux Olympiques. Quoi.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui, mais il y aura tellement de forces de sécurité déployées, peut-être ça ne passera rien.
Je suis allé hier soir au Parc des Princes.
Oui, où il y avait des menaces d'attentats.
Des menaces, on n'a pas été fouillés.
On n'avait pas été fouillés. Bon. D'accord.
Bon. De toute façon, et quand on y va, généralement, on vous demande d'ouvrir votre veston. Alors, on ouvre le veston, puis il n'y a personne qui vous
fouille. Vous pouvez cacher un couteau facilement.
Donc, quelqu'un qui veut rentrer avec une arme, un couteau, voire une arme à feu, sincèrement, dans l'équipe. Parce que sinon, il faut faire venir les gens 5 heures avant l'événement.
Non, mais si je peux me permettre, sauf erreur, les agents de sécurité ne sont pas habilités
juridiquement
pour faire des palpations de sécurité.
Moi, je maintiens de remercier la police nationale que j'ai fait au début d'émission et les gendarmes, parce que voilà, vous êtes, et les policiers municipaux, évidemment, vous êtes vraiment les derniers remparts entre nous, la population et la barbarie, quelques noms qu'elle peut.